La nuit finit par tomber sur les ruines du prieuré. Comme les ombres s'épaississaient autour de leur petit feu, le chevalier prit la liberté de poser une question qui lui trottait dans la tête depuis un moment. « Frère Hummel, nous sommes-nous déjà rencontrés par le passé ?» Le vieillard se raidit, comme si quelque chose l'indisposait dans la curiosité de son hôte.
« D'où tenez-vous pareille idée ? »
rétorqua-t-il un peu trop vivement. « Vous étiez mal à l'aise quand je vous ai salué. Sur le moment, j'ai mis cela sur le compte d'une défiance légitime, car la région est mal famée. Mais plus je vous entends, et plus j'ai le sentiment d'être en terrain familier. Vous avez l'éducation et même parfois l'insolence d'un haut homme. Ce n'est pas mon rang qui vous impressionne, mais je ne sais quoi d'autre. En fait, bien que ni votre voix ni votre visage ne me rappellent rien, j'ai l'inexplicable impression que vous ne m'êtes pas inconnu. » L'ermite branla du chef, l'expression incertaine.
« Ce que vous dites m'attriste, Sir Edan. Cela signifie que malgré toutes mes mortifications et mes pénitences, je n'ai toujours pas dépouillé la défroque du vieil homme. Ce sont ses manières que vous reconnaissez, non ma personne. Certes, nous avons failli nous croiser il y a 10 ans de cela. Je vous ai vu une fois, de loin, mais je doute fort que ce fût réciproque. Vous étiez alors en grand harnois, tout occupé à vous couvrir de gloire au tournoi de Gaudemas. Quant à moi, je passais dans la tribune. Je crois que la duchesse Odéhard avait prévu de nous présenter, vous et moi. Mais je ne suis pas assez resté pour lui accorder ce plaisir.
Vous connaissez la duchesse?
Je dirais plutôt que c'était elle qui me connaissait. Vous êtes bien placé pour savoir que cette dame avait commerce avec toute la bonne société. Pour autant, ne vous leurrez pas sur mon cas. Je ne suis pas de ces seigneurs qui prennent la bille au soir d'une existence dissolue, à seule fin de marchander la paix avec leur conscience. Dès le plus jeune âge, je suis entré dans le sacerdoce, ce qui ne m'a nullement empêché de mener une vie déréglée.
J'imagine qu'Hummel est un nom de religion que vous avez pris en vous retirant du monde. Serait-il indiscret de vous demander sous quelle identité vous étiez connu à la cour?
Ce serait non seulement indiscret, mais trompeur. Le nom que je portais alors respirait l'imposture. Oh, c'était bien mon nom de naissance, et j'en étais fier. Mais ce qu'il recouvrait n'était qu'illusion.
Vous êtes bien sévère avec vous-même.
C'est dans le renoncement que l'on retrouve l'essentiel.
Ne s'y perd-on pas un peu? En abandonnant mon nom, j'aurais le sentiment de renier mon sang et mon honneur.
Voilà longtemps que vous vous consacrez à la chevalerie, Sir Edan. Et même plus longtemps qu'on pourrait le croire. N'êtes-vous point las de toutes ces vanités? À force de vivre pour soutenir l'honneur de votre nom, n'avez-vous point le sentiment d'être devenu une coquille vide?
L'honneur me grandit, comme la foi vous élève.
Et pourtant, vous le voyez bien, je me rabougris dans une hutte au milieu des ruines. Dites-moi, si ma mémoire ne me trahit pas, vos armoiries sont semées d'épines sur champs d'argent. Mais je ne me souviens plus de leur nombre.
Mon écu porte 4 épines.
Seulement 4. Jadis, n'en aviez-vous pas davantage?
Ces 4-là me suffisent. Si vous me permettez de parler sans embâge, voilà une curieuse façon de détourner la conversation.
C'est bien un détour, non une dérobade. Je crois que vous disposez de vos épines comme je l'ai fait de mon nom. Je vais vous éclairer un peu sur ce sentiment. Vous êtes-vous déjà rendu au château de Verre?
Cela m'est arrivé 1 ou 2 fois, en me rendant dans le comté de Brockmel.
Vous avez donc traversé le bosquet du Desséché.
On peut difficilement le contourner si l'on gagne la forteresse.
Avez-vous visité ce sanctuaire?
Non. Cet endroit est sinistre, et on le dit encore chargé de maléfices.
Je me suis hâté de traverser ces allées et de passer les deux ponts. Eh bien, pour ma part, j'ai flâné dans ce bois. Vous n'ignorez point que le clergé de la vieille déesse et celui du desséché ont partie liée, en particulier pour les travaux d'archives. Dans le bosquet de verre, j'ai découvert un curieux monument. Un tombeau, situé non dans les hypogées, mais presque en bord de chemin. C'est là-bas, pour la première fois, que j'ai vu les armoiries de vos macelles. Les vôtres, ou presque, car le nombre d'épines n'était pas tout à fait le même. Si d'aventure vous repassez par Vers, cherchez donc cette stèle. Vous la trouverez facilement. Elle est environnée de vieux rosiers. Je vous conseille vivement d'en déchiffrer l'inscription. Sans doute alors comprendrez-vous davantage certaines choses qui se sont dites aujourd'hui. La nuit dans les ruines du prieuré de Senantes fut très inconfortable. Le chevalier de Vaumacelle et ses suivants avaient beau être gens de guerre, ils avaient coutume de demander l'hospitalité dans des gîtes plus commodes qu'une bâtisse à demi effondrée. Nem entretint un moment le petit feu, mais cela n'empêchait pas la pierre de suinter, ni les vents coulis de s'inviter sous la voûte décrépite. L'ermite, au moins, avait son refuge de branchage. Au petit matin, les trois voyageurs se réveillèrent transis, bien qu'ils eussent dormi emmitouflés et serrés les uns contre les autres. Quel fut le premier sur pied? Son service lui imposait de menues corvées dont il se serait bien dispensé, mais qu'il était imprudent de négliger. Nem ne laissait rien passer, et mieux valait ne pas indisposer le chevalier. Le page prit son courage à deux mains avant de quitter ses couvertures. Malgré sa houppelande, il se mit à grelotter dans l'atmosphère coupante. Il avait givré dans la nuit. La brume pétrifiait tout le val et les naseaux des bêtes soufflaient de longs jets de vapeur. Il fallait des fagots pour alimenter le feu. Le freluquet ramassa rapidement son coteret sans trop regarder sur le bois vert. Il partit ensuite chercher de l'eau. Il lui fallut pour cela remonter les vestiges du cloître, dont la colonnade noyée de brouillard paraissait transformée en boqueteau fantomal. Une buée pénétrante stagnait au-dessus du vieux bassin lustral. Sans égard pour son caractère sacré, Kell s'accroupit sur la margelle de pierre et entreprit de remplir ses gourdes. Mais le blanc-bec, qui n'avait pourtant pas froid aux yeux, ne se sentait pas à son aise. Il jeta un coup d'œil derrière son épaule. Il n'aperçut que les ombres des taillis et des ruines, absorbées dans une blancheur laiteuse. Pressé de revenir au bivouac, il plongea un deuxième récipient dans la vasque. Le miroir troublé de l'onde lui renvoya un reflet fluctuant. Par jeu, le polisson se fit d'horribles grimaces. Mais il interrompit bientôt ses facéties. À moitié couvert par le glouglou de la gourde, il venait d'entendre une rumeur qui ressemblait à un fugace battement de main. Plus vexé qu'effrayé, le page se dressa sur ses ergots. Ses pitreries n'étant adressées à nul autre public que lui-même, il s'offusqua de cet applaudissement. Autour de Kell, la vue ne portait pas à 10 pas. Et il n'aperçut pas le moindre intrus à la ronde. Au bout de quelques instants, il voulut se persuader qu'il avait rêvé, mais n'en éprouvait pas moins une impression désagréable. Une fois ses gourdes pleines, il regagna le bivouac. Alors qu'il quittait les ruines du cloître, il entendit un curieux courant d'air qui lui fit penser au froissement soyeux d'une bannière en plein vent. Mais tout demeurait d'une glaciale quiétude alentour. Et quand il rejoignit les chevaux, il les trouva paisiblement assoupis. Il haussa les épaules et poursuivit son service. Nem se réservait les soins à sa vieille jument pie ainsi qu'aux deux montures du chevalier. Mais Kell devait s'occuper de son ronsin irascible et de la bête de bât. Réveillant les deux animaux, il commença par leur graisser les pieds en prévision des chemins boueux qu'ils allaient prendre. Il s'apprêtait à leur retirer leur plaid quand il entendit deux rechefs du mouvement derrière lui. Mais cette fois, le bruit était moins furtif, et le page le reconnut. Ce qu'il avait pris pour un applaudissement étouffé n'était qu'un battement d'ailes. Riant de sa propre sottise, il se retourna et découvrit sans peine son épieur. Un gros jet venait de se percher sur un jeune arbre poussé dans les décombres. La branche assez mince sur laquelle il s'était posé ployait sous son poids, et l'oiseau jouait les équilibristes. Cela ne l'empêchait pas de rendre hardiment son regard à Kell. Malgré l'atmosphère brumeuse, le garçon admira son plumage bigarré. Sa robe beige était moirée de mystérieux reflets d'aurore, d'un rose tendrement pastel, et les grandes rémiges de ses ailes miroitaient du bleu le plus pur. Le page trouva étonnant que le gros passereau ne s'enfuit pas. Malgré leur belle taille, les jets des chênes se montraient d'ordinaire farouches.
« Qu'est-ce que tu as à m'espionner ?»
apostropha l'enfant sur le ton de la plaisanterie. Le jet redressa sa huppe avec un intérêt comique.
« Qu'est-ce que ?»
garula-t-il en inclinant la tête à droite. De surprise, qu'elle lâcha le couvre-rein qu'il venait de saisir.
« Quoi ?»
s'écria-t-il.
« Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que quoi ?»
capita l'oiseau en penchant la tête à gauche. Le page resta bouche bée un instant. Puis reprenant ses esprits,
« Répète-moi ça !»
intima-t-il avec une fougue vindicative.
« Répète-moi ça !»
ricassa le jet en prenant son vol. Le sang de Kell ne fit qu'un tour. Le coquin de volatile, il osait le moquer. Oubliant son service, le freluquet se précipita à la poursuite de l'oiseau. En quelques coups d'aile, celui-ci se fondit dans la brume, tout en lançant de loin en loin un long cri rauque qui permettait de le situer. Chacun de ses sarcasmes piquait un peu plus le page. Ah, la méchante volaille! Elle ne s'en tirerait pas à si bon compte. Et le garçon de galoper à l'étourdi dans les futaies embrumées, patinant dans la boue et les feuilles mortes, sans même savoir dans quelle direction il se précipitait.
« Reviens ici » s'égosillait-il. « Redis-moi ça pour voir !»
Le jet lui répondait par des jacasseries railleuses qui creusaient insensiblement la distance. Ses cris, toutefois, portaient loin dans le brouillard et alertèrent les adultes. Quelque part en arrière, retentirent des appels, qu'elle n'en tint aucun compte. Tout échauffé qu'il était, il donna un coup de jarret en invectivant son jet de plus belle. Alors qu'il perdait son souffle en grimpant une pente glissante, il perçut les percussions d'un trot. Monté accru sur sa jument, Nem surgit du brouillard. Le vieil écuyer avait beau interpeller le petit valet d'armes, celui-ci ne voulait rien entendre. Il fallut que le cavalier lui coupât la route pour que le garçon s'arrêtât.
« L'oiseau !» trépigna les cervelets. « On va le perdre !»«
Quel oiseau ?»
demanda Nem.
« L'oiseau enchanté, il m'a parlé !»
L'écuyer ne manifesta nulle surprise. Il avait plutôt l'air courroucé.
« Espèce de petit imbécile, tu allais te jeter dans la gueule du loup !»«
J'étais sur le point de les trouver, vous n'aviez qu'à me suivre !»«
Tu te serais envolé comme les autres enfants, en nous abandonnant ta besogne qui pisait. »« Cet oiseau, était-ce la pie ?»«
Non, c'était un gros jet !»«
Et que t'a-t-il dit ?»«
N'importe quoi !»«
Je m'en vais te frotter les oreilles, petit drôle !»«
Mais c'est la vérité, il parlait pour ne rien dire !» C'est bien dans leur manière d'apprendre des sottises aux bêtes qu'ils charment. Ha ! C'est malin, on l'a perdu maintenant !
Nem tendit l'oreille. Mais le garçon avait raison. Un calme pesant s'était refermé sur le val.
C'est mieux ainsi, grommela le vieux lige. Ton jet était un appôt qui nous aurait menés tout droit dans une nasse.
Cependant, ce brouillard rendu au silence ne lui inspirait pas confiance. Il tendit la main au page pour le faire grimper en croupe et battit en retraite vers les vestiges du prieuré. Dans les ruines, ils retrouvèrent le chevalier qui, ayant enfilé seul son gambison, achevait de sceller son palefroid.
« J'ai poursuivi un jet causeur !» s'écria Kell. « Mais Nem m'a empêché de le rattraper !»«
L'écuyer lui décocha une tape sur la nuque comme l'impertinence sautait à terre. « Est-ce la vérité ?» demanda le sire de Vaumacel, le regard levé vers son vieux servant d'armes.
« Allez savoir !»
grommela Nem.
« Le seul étourneau que j'ai vu et entendu dans le bois, c'est ce petit effronté. »«
Bien sûr que c'est la vérité !»
se scandalisa le garçon.
« L'oiseau, il m'a suivi, et puis il m'a parlé, il était impoli, il s'est moqué de nous !»
« Je croyais qu'il racontait n'importe quoi, »
releva Nem avec ironie.
« Et bien sûr qu'il disait n'importe quoi !»
s'emporta le freluquet.
« Se moquer de nous, c'est n'importe quoi !»
Le chevalier leva une main menaçante vers son page.
« Un ton plus bas »
intima-t-il. Puis, adoptant une expression plus amène, il ajouta « Je te crois, Kel. Je sais le don que tu as pour dénicher ce genre de choses. »
J'espérais même qu'il se passe quelque incident de cet ordre.
Grâce à toi, nous savons que nous sommes sur la bonne piste. » Le jeune varlet accueillit ces paroles comme un dû. S'il se calma un peu, il n'en afficha pas moins une mine boudeuse.
« Dépêchons-nous de nous équiper, »
reprit Edan. « Il faut être paré à tout. »
« Nous n'allons quand même pas courir après cet oiseau, »
regimba Nem.
« Bien sûr que non. Nous ne serions en mesure de le retrouver que s'il voulait nous appâter. Et seul le resplendissant sait où il nous entraînerait. Nous n'avons même pas l'assurance que ses maîtres sont dans les environs. Mais qu'importe. Au moins nous pouvons tenir pour acquis qu'il n'ignore pas que nous les cherchons.
Qu'allons-nous faire alors ?
Je crois qu'il y a du bon dans le conseil que nous a donné l'ermite.
Gagnons le Druservin. Nos insaisissables nous surveillent. Ils comprendront où nous allons. Même s'ils ne s'y trouvent pas, ce monde doit être chargé de signes pour eux. Cela devrait éveiller leur intérêt. À notre tour de les amorcer. Les trois compagnons achevèrent de sangler les chevaux et de fixer leurs bagages. Comme la veille, les deux adultes s'armèrent. Équiper le chevalier de son harnois prit du temps. Émergeant tardivement de sa hutte, le frère Hummel parut un instant effaré, comme s'il avait oublié leur présence.
« Ah ! C'était donc vous, toute cette agitation »
maugréa-t-il quand il eut recouvré ses esprits.
« Quand ils vous ont rendu visite, les pèlerins que nous cherchons, avaient-ils des oiseaux ?»
demanda le sire de Vaumacel.
« Chevaux, chiens, oiseaux, sans parler des enfants. » Toute une ménagerie.
Y avait-il des jets ?
Je ne m'en souviens pas. Je l'ai vue basse, et j'étais surtout préoccupé par les enjôleurs.
Nous croyons que l'un de ces oiseaux vient de repasser par le Val.
Comment ? Mais voilà qui est fâcheux. Très fâcheux. Abrégeons donc cette conversation, et hâtez-vous de décamper, vous allez me les ramener.
N'ayez crainte, frère Hummel. Je ne pense pas qu'il vous soit hostile.
Qu'en savez-vous ? Il n'y a pas plus lunatique que ces créatures. Et maintenant les voici au courant de notre rencontre. Quelle infortune ! Est-ce qu'ils vont rire ?
En quoi y aurait-il matière à rire ?
Je suis bien d'accord avec vous, sire Edan. Il y aurait plutôt matière à frémir. Mais vous connaissez cette tête de linotte.
Je ne vous suis plus, frère Hummel. Qu'entendez-vous par là ?
Que je suis bien aise de vous perdre. Allez, oust ! Allez où bon vous semble, mais attirez-les loin d'ici. »
Craignant de s'égarer dans la brume, puisque les voyageurs étaient arrivés par accident à Senantes, le sire de Vaumacel pria néanmoins l'ermite de les remettre dans la direction de Verchères. Le vieillard se hâta de les ramener au chemin qu'ils avaient perdu la veille et leur souhaita bon vent. Par courtoisie, le chevalier lui adressa quelques formules aimables. L'ancien y coupa court.
« Filez, vous dis-je, c'est la plus belle des politesses que vous pourrez me faire. Vous vous passerez de ma bénédiction. De toute façon, la déesse vous a à l'œil et moi avec. En toute franchise, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. »
Sur ces mots, il tourna les talons et se fondit dans le brouillard de sa démarche cagneuse.
« Quel drôle de frocard !»
marmonna Nem. « Son hospitalité laissait à désirer ?» « Mais il ne nous aura pas été inutile, » dit Edan. Les trois voyageurs s'engagèrent sur la voie que leur avait indiquée l'anachorète. Ils auraient été bien en peine d'affirmer qu'ils étaient sur le bon chemin. La brume et le givre nimbaient le sous-bois d'une pâleur opaque, dans laquelle les arbres dérivaient au rythme de la marche, tels de rêveuses dames blanches. Qu'elle gardait le nez en l'air, espérant retrouver son oiseau, et ne faisait guère attention à l'endroit où ses chevaux mettaient le pied. Les deux hommes essayaient en vain de trouver des points de repère. Certes, le chemin remontait à flanc de colline. Il était parfois coupé par un glissement de terrain ou des branches mortes, mais tout prenait un air nouveau et mystérieux dans cette nébulosité. Rien n'assurait qu'ils revenaient sur leurs pas. La matinée avançait. Le chevalier et son écuyer se sentaient gagnés par le doute, de plus en plus pénétrés de l'impression d'être d'heureux chefs égarés. Ils étaient tentés de tourner bride, quand la situation prit un tour nouveau. Au terme d'une côte fort raide, ils venaient de déboucher sur une patte d'oie marquée par une borne qu'ils reconnurent. Le chemin qu'ils rejoignaient était un vrai bourbier, récemment foulé par le piétinement d'une troupe. « Voici les traces laissées par les soudoyers du grand bâtard, » se réjouit le sire de Vaumacel. « Nous avons retrouvé la route de Verchères. » Comme ils remontaient vers le plateau, l'atmosphère se fit plus diaphane. Le soleil épandait un poudroiement doré sur les derniers voiles de brume. Quand ils émergèrent sur les hauteurs, la nuée se déchira et ils purent respirer au grand air. Un ciel presque printanier donnait un fantôme de gaieté au finage abandonné. Le brouillard stagnait dans les vallons et les combes. Le sommet boisé des collines flottait sur cette mer de nuages avec des allures d'archipel. Dans l'air limpide, les trois cavaliers n'eurent aucun mal à distinguer les tours et les courtines du château d'Ouchin, qui se dessinait avec tant de netteté qu'elle donnait l'illusion d'être à portée de main. Se tournant vers la gauche, les compagnons scrutèrent le paysage. Le front hirsute des reliefs occupait l'horizon comme un troupeau baigné de buée. Pourtant, sans aucune hésitation, les voyageurs identifièrent le Drucervin. Dans les lointains, le mont barrait majestueusement les perspectives de ses épaulements brunâtres. Abandonnant la direction qui les aurait ramenés vers Goborchin et la seigneurie du Trèfle, les voyageurs obliquèrent vers le sud. Quoique le plateau de Verchères ne fût point boisé, la marche n'y était pas facile. Les haies qui avaient autrefois bordé les chemins vicinaux avaient poussé au point de croiser leurs ramilles. La traversée des friches qui avaient envahi les prés et les lopins imposait des bifurcations imprévues quand il fallait contourner des murets envahis de ronces. Guider les chevaux dans cette brande ne pouvait se faire qu'au pas. Et le soleil était haut quand les cavaliers atteignirent l'extrémité méridionale du plateau. Une mer d'arbres et de brumes les séparait toujours du Drucervin, qui semblait avoir reculé vers l'horizon. Après avoir examiné le versant et les lisières qui s'étendaient en contrebas, les voyageurs s'engagèrent dans ce qu'ils crurent être un chemin creux dégringolant à flanc de coteau. Cette cavée s'évanouit dans les futaies avant même qu'ils eussent touché au bas de la combe. Et ils furent réduits à percer les sous-bois en menant prudemment les bêtes par la bride. Des nappes de brouillard s'attardaient au plus profond des vallons. Comme il était difficile de marcher en droite ligne au milieu des souches et du morbois, les compagnons eurent plus d'une fois l'impression de perdre le cap. Ils cherchaient alors une côte pour remonter au-dessus de la brume, et dès qu'ils retrouvaient le soleil, corrigeaient leur trajectoire vers le sud. Eussent-ils voulu revenir sur leurs pas, ils auraient été bien en peine de retrouver les ruines de Senantes ou le plateau de Verchères. Chaque foulée les entraînait dans un pays plus incertain. Mais le Drucervin leur était apparu si large qu'ils avaient bon espoir de tomber malgré tout sur son piémont. Dans l'après-midi, les brumes s'effilochèrent. Cela leur permit de se repérer au soleil, même au fond des combes. La sylve reprenait haleine dans une douceur de dégel. Les fleurs de givre qu'une aube glaciale avait abandonnées sur les branches se résorbaient en gouttes brillantes. Ce redoux ressuscitait le ramage des passereaux. Au loin, on entendait même le couplet d'un coucou.
Bizarre, finit par observer Nem. Il est tôt dans la saison pour le chant du coucou.
C'est peut-être un de nos oiseaux,
se réjouit Kell. Les voyageurs n'épiloguèrent pas sur la question, car une autre rumeur leur fit dresser l'oreille. Dans les collines qu'ils avaient laissées derrière eux, s'éleva un aboiement. Porté par l'atmosphère froide, le cri paraissait provenir d'un lieu reculé. Il cascadait en une série de jappements dont le final sonnait un peu éraillé. Puis, après une brève interruption, il reprenait. Rien de plus banal que cette clabauderie. Dans une campagne, on l'eût prise pour l'appel d'un chien de ferme ou l'écho d'un chenil. Mais sur les hautes terres d'Agurande, cette clameur vibrait lugubre. Spontanément, les cavaliers tirèrent les rênes et, tournés vers l'arrière, firent silence. Les aboiements se prolongèrent quelques instants, puis se turent. Malgré le chant des oiseaux, une étrange pesanteur retomba sur la forêt.
« C'est un braillard mal créancé qu'on vient de faire taire, » s'inquiéta Nem. « Quelqu'un suit notre piste. »
Ni le chevalier ni ses gens ne se leurraient sur l'impression de sûreté donnée par la distance. De bons limiers pouvaient remonter une voie sur des lieux et des lieux, en gagnant sur leur gibier à l'usure. Et il était peu probable de les mettre en défaut. Au flair, des chiens entreprenants empaumeraient la piste de 5 chevaux les yeux fermés.
« Poursuivons notre route, » dit tranquillement le sire de Vaumacel. « Et tâchons de trouver un terrain découvert. »
Ses servants acquiescèrent sans mot dire. Tant qu'ils restaient sous la ramée, leur monture représentait un embarras plutôt qu'un atout. Mais en plein champ, le chevalier et son écuyer seraient en mesure de tenir tête à toute une bande de piétons, voire à plusieurs cavaliers s'ils étaient moins lourdement armés. Cependant, afin de parer aux imprévus, Eddan prit la précaution d'échanger son palefroid contre son destrier. Nem corda son arbalète de cavalerie, tandis que le page, après avoir déhoussé le grand écu, aidait son seigneur à le suspendre à son cou. Lorsqu'ils reprirent la route, Eddan garda la tête mais fit marcher Kell et la remonte derrière lui, tandis que Nem se plaçait en serre-fil, l'arbalète en travers de l'arçon. Pendant un moment, ils cheminèrent aussi paisiblement que dans la matinée. La forêt était si somnolente qu'ils auraient pu croire avoir pris de vaines précautions. Toutefois, dès que leurs alarmes étaient sur le point de fondre, un aboiement retentissait à nouveau sous les futaies. Il leur parvenait toujours aussi distant. Toutefois, quand bien même ils allaient de l'avant, le cri ne s'affaiblissait point. On ne les traquait pas encore. On les suivait bel et bien. La journée était avancée lorsqu'une lumière plus claire ourla les troncs devant les cavaliers. Heureux de trouver une lisière, ils accélérèrent le pas. En sortant du sous-bois, ils n'eurent pas l'impression de quitter la forêt, mais ils furent soulagés de retrouver un peu d'espace. Une clairière étroite épousait un fond de vallée dans lequel courait un gros ru. Le fantôme d'un chemin longeait le cours d'eau, à un jet de pierre de la rive. La voie disparaissait en partie sous les ronces et les mauvaises herbes, mais l'une des ornières restait encore bien visible, foulée comme un sentier. À une portée d'arc se dressait une bâtisse délabrée. Sa roue à aube, qui avait perdu plusieurs pales, permettait de reconnaître un moulin. La toiture affaissée et le portail envahi de lierre respiraient l'abandon. Mais les voyageurs n'étaient pas mécontents de retrouver trace d'un finage. Plus loin, au sud, le Drucervin barrait le vallon avec un vaste versant tout chevelu de hêtraies. Le chevalier et ses gens ne savourèrent guère le soulagement de marcher à découvert. Devant les ruines du moulin, ils découvrirent un piquet orné d'un crâne canin. Un coup d'œil par l'embrasure révéla les cendres d'un foyer à l'intérieur. Ces traces d'un bivouac n'inspirèrent rien qui vaille aux trois compagnons. Ils pressèrent les flancs des chevaux pour repartir au plus vite et s'engagèrent sur la sente qui avait été naguère une voie charretière. Au bout de quelques centaines de pas, la piste s'écarta du ru. Celui-ci, égaré dans une grande jonchère aux lancéoles desséchées par l'hiver, alimentait sans doute un étang ou des marais. Courant sur un terrain plus ferme, le chemin remontait en direction du coteau du Drucervin. Mais la clairière qu'il avait traversée s'étranglait. Les lisières se refermaient peu à peu, jetant bientôt leurs ombres en travers du passage.